Et on en a déjà vu 12. Alors, c'est sûr que c'est 12 aspects ou 16 aspects au total de l'amour, mais on s'aperçoit que tout est imbriqué, tout est lié dans l'amour de Dieu. On ne peut pas dire je vais juste être patient, mais je vais pas être centré sur les autres. C'est pas possible. Et on est obligé de faire tout ou rien avec le Seigneur, parce que l'amour du Seigneur qui est déversé en nous est quelque chose de très puissant, une force qui nous permet de dépasser ce que nous pouvons faire humainement. Vous vous souvenez de ce qu'on a partagé? Oui? Deux se souviennent. Donc je suis obligé de tout reprendre les prédications d'avant, c'est ça? Non, d'un coup tout le monde se souvient là. Ce que je voudrais insister, c'est que vraiment c'est quelque chose qui est important. Quand on lit 1 Corinthiens 13, les premiers versets nous parlent que sans l'amour, on ne sert à rien. Tout ce que nous pouvons faire sur terre ne sert à rien. Même les œuvres les plus belles, même de donner sa vie en sacrifice, tout ça, ça sert à rien si c'est pas motivé par l'amour. Il y a des personnes qui font de l'humanitaire, qui font des choses merveilleuses, qui nourrissent des milliers d'enfants grâce à leur argent, mais ils le font pas forcément par amour, ils le font parce que ça va donner une bonne image de leur personnalité publique. Est-ce que ça, c'est la bonne raison? Non. Ce qu'il faut, c'est surtout que ça soit le résultat de l'amour. Dieu veut que nous ayons l'amour en tant que croyants, nous devons être à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu déjà, et il a une certaine particularité dans sa façon de raisonner qui fait qu'il est différent des animaux. Il y en a qui disent qu'on est des animaux humains, on ne doit plus dire être humain, mais on doit dire animaux humains, parce qu'ils défendent tellement la cause des animaux que les animaux et les êtres humains sont égaux. Bon, ça c'est une façon de penser. Quand on voit la Bible, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce qu'on est sûr, c'est que Dieu veut qu'on soit à son image de manière spirituelle. Et spirituellement, Dieu est amour et il veut que nous soyons pleins de son amour. Et s'il y avait une seule chose que nous devions faire sur la terre par rapport à notre foi, un seul commandement que nous devions faire sur la terre, ça serait de nous aimer. Ça remplit toutes les conditions pour accomplir la loi de Christ. Alors, 1 Corinthiens 13, verset 4 nous dit, vous vous souvenez, tous ces verbes qui nous montrent que l'amour, c'est de l'action. Alors, je l'ai mis avec la traduction, les études que l'on a faites. L'amour reste animé longtemps. Il fait ce qui est bon. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne se glorifie pas. Il ne se gonfle pas puisqu'il se donne. Il ne fait rien d'indécent, mais il use de tact et de délicatesse. Il ne se cherche pas lui-même. Il n'est pas centré sur soi. Il ne s'intensifie pas à l'excès. La dernière fois, on a vu que l'amour ne compte pas le mal. Ah tiens, il m'a fait du mal, je comptabilise tout ça. Non, non. L'amour couvre tout. L'amour est sensible. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et nous terminons donc avec ces quatre aspects. L'amour croit tout, il espère tout, il supporte tout et il ne meurt jamais. Parmi ces quatre dernières façons d'aimer, il y en a trois qui sont comme un trio indissociable. C'est les trois qu'on a cités. L'amour croit tout, espère tout et supporte tout. C'est comme un trépied, vous savez. S'il manque un pied, ben on va tomber. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser le lien qu'il y a entre croire, espérer, supporter. Quand l'amour n'a aucune preuve, alors il croit tout. Il croit le meilleur. Mais quand l'amour a une preuve défavorable, quand on sait que la personne a fait quelque chose qu'il fallait pas qu'elle fasse, eh ben l'amour espère tout, espère que ça va changer. Et quand plusieurs fois on a été déçu dans notre espoir, mais l'amour supporte tout. Vous comprenez le lien qu'il y a? Et c'est une progression, c'est quelque chose qui nous aide à avancer. Alors on s'intéresse à cette troisième façon d'aimer. L'amour, c'est croire tout. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour croit tout. Est-ce que ça veut dire tout ce qu'on va me dire de n'importe qui que ça vient, je le crois? Finalement, l'amour, c'est la naïveté totale. C'est ça? Non. Parce que l'amour se réjouit de la vérité. Donc, l'amour aime la vérité. Donc, l'amour va chercher ce qui est de la vérité, etc., etc. Donc, forcément, on comprend bien que ce n'est pas de la naïveté, mais ça va, c'est quelque chose d'autre. Ça signifie que le croyant ne doit pas être méfiant dans son amour. Aimer avec prudence, oui, mais aimer avec méfiance, non. Vous voyez la différence entre la prudence? On a le droit d'être prudent, parce que si la personne qui est en face de nous ne montre pas qu'elle est digne de confiance, on a le droit d'être prudent. Mais avec méfiance, ça c'est autre chose, parce qu'on prête à la personne de mauvaises intentions, qui sont pas forcément le cas. Et le Seigneur nous invite à croire tout. Et c'est important de réaliser, la Bible nous donne un exemple de quelqu'un qui a devenu une bénédiction pour des milliards de personnes parce qu'à un moment donné, quelqu'un, dans son amour, a cru en lui. Pas de croire, de mettre sa foi, hein. Ça, il n'y en a qu'une personne en qui on met sa foi, c'est le Seigneur. Mais des fois, on a besoin de croire aussi dans les autres, que les autres peuvent changer. Et c'est dans les Actes au chapitre 9, on voit un exemple de la parole de Dieu, c'est merveilleux. Vous connaissez Saul ? Saul de Tarse, ça vous parle ? Est-ce qu'il a toujours été merveilleux ? Hein ? Est-ce qu'à un moment donné, heureusement qu'il a changé de vie ? Ben oui, parce que sinon, quand il était dans sa vie d'avant, eh bien, il a fait tellement et tellement de mal. Tellement et tellement de mal. Mais à un moment donné, sa vie a basculé parce qu'il a ressenti de l'amour de la part d'une personne. Bien sûr, il y a le Seigneur Jésus d'abord, mais une personne, un être humain lui a manifesté de l'amour alors qu'il est en train de subir le rejet et il a été béni et il est devenu une bénédiction. Acte 9. Alors, le verset 26, avant de lire ce verset 26, je vous replace le contexte. Vous savez que Paul a été arrêté par le Seigneur, il est tombé de son cheval, il est devenu aveugle. Pendant 3 jours, il a cherché Dieu et Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Ananias qui est venu pour prier pour lui, pour qu'il soit à nouveau voyant et puis surtout qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ensuite, il l'a baptisé d'eau et ensuite cet homme, Saul, s'est mis à annoncer partout. Lui qui disait le contraire avant, il s'est mis à annoncer partout que Jésus était le Christ. Changement radical de vie. Et dans cette ville où il était, il a commencé à prêcher dans les synagogues au point que même les Juifs qui étaient avec lui, les pharisiens qui étaient là, ils sont commencés à se liguer contre lui. Ils ont voulu le tuer. Déjà, au tout début de sa vie. Et ils ont fait fuir Saul, vous savez comment? En le faisant passer par des corbeilles le long de la muraille. Et donc, il est parti. Alors, c'est au verset 26 qu'on rejoint l'histoire. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Vous avez vu l'expression qui est employée? C'est le même mot. Ne croyant pas qu'il fût un disciple. Saul est arrivé à Jérusalem, mais les disciples de Jérusalem, quand ils l'ont vu, ils se sont souvenus de qui c'était. Ils savaient que c'était un persécuteur. Ils rentraient dans les maisons pendant qu'ils étaient en train de souper. Ils arrachaient les hommes, ils les mettaient dans les prisons où ils séparaient les femmes et les parents et les enfants, etc. Ils faisaient des dégâts au nom de sa foi. Et quand ils l'ont vu arriver, ben ils ont eu peur. Et il est dit qu'ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Mais, regardez ce qu'il est dit après. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Amen. Certains ne croyaient pas. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, il a pas peur. L'amour, il tremble pas. L'amour, il croit tout. L'amour, il pense que les choses peuvent changer. Et les disciples qui étaient là, on peut comprendre pourquoi. Parce que peut-être certains, ils avaient leurs parents ou leurs enfants en prison à cause de Saul. On comprend. La réaction humaine. Mais c'est pas l'amour humain. C'est pas l'amour divin, je veux dire. C'est la réaction humaine. Mais il y a un homme qui a permis d'être utilisé par Dieu pour que les choses changent dans la vie de Saul. Imaginez si personne avait bougé à ce moment-là. Si tout le monde était resté dans l'incrédulité par rapport à Saul, qu'est-ce qui se serait passé? Mais peut-être qu'il serait reparti. Peut-être qu'il aurait dit, bon, mais si c'est ça la foi, je m'en vais. Si c'est ça les croyants, eh bien, je laisse tout tomber. Est-ce qu'il aurait pu? Peut-être. Hein. Mais il y a un homme qui l'a aimé. Il y a un homme qui a cru en lui, qui a pensé que Dieu avait fait une œuvre dans sa vie. Et regardez de quelle manière cet homme a manifesté son amour. Il est dit qu'il le prie avec lui. Littéralement, ça veut dire venir au secours de quelqu'un. C'est le même verbe qui est utilisé quand Pierre est en train d'enfoncer dans les eaux, lui qui est en train de marcher sur l'eau, il est en train de couler, et Jésus le saisit. Jésus le prend par la main. Jésus vient à son secours. Et là, Barnabas, il est dit qu'il vient au secours de Saul. Saul est en train de tomber, de se noyer dans le rejet, de se noyer dans l'incompréhension, de se noyer dans toute la déception, la frustration. Mais il y a un homme, parce qu'il l'aime, qui vient lui tendre la main pour le secourir. Ça, c'est l'amour. Tendre la main vers l'autre pour essayer de le secourir, c'est ça l'amour, selon la parole de Dieu. Il le prend avec lui. L'amour tend une main de secours vers l'autre. L'amour nous conduit aussi, nous dirige, nous donne des indications, une direction. Il est dit que Barnabas le conduisit vers les apôtres. Mais si les apôtres validaient la conversion de Saul, ben il était quand même un peu tranquille après. Il avait presque sa carte de visite, si vous voulez. C'était l'autorité spirituelle. On le comprend, la façon de procéder était la bonne. Mais est-ce que Saul le savait? Saul ignorait comment ce qu'il fallait faire. Mais Barnabas, il avait compris qu'il fallait qu'il le dirige. Il fallait qu'il le conduise. Et l'amour est quelque chose qui nous pousse à diriger, à conduire, à conseiller la personne qui est peut-être sur un mauvais chemin afin de l'aider à changer. L'amour guide celui qui est perdu. Et Barnabas est en train de raconter la conversion, le changement de vie de Paul. Il est en train de se porter garant de Saul parce que il a vu le fruit dans sa vie. On ne se porte pas garant quand on n'a pas de confiance. On est d'accord? On ne se porte pas garant quand on ne croit pas dans la personne. Est-ce que vous allez vous porter garant de quelqu'un qui a volé un milliard de Monsieur Balkany, tiens, sans le citer? Vous portez garant de son intégrité. Ça va être un peu compliqué quand même. D'accord? Et lui et les autres, parce qu'il n'est pas seul. Parce que ce sont les exemples sur la place publique. Mais on se porte garant des personnes qui ont gagné notre confiance. La confiance, ça ne se construit pas en un jour, hein. Ça se gagne. Et des fois, ça se gagne vite parce que le Seigneur nous montre sa façon de voir les choses. Et je crois que Barnabas, il a eu la vision de ce que Dieu allait faire au travers de Saul. Barnabas a compris que Saul était un instrument de bénédiction. Et il fallait qu'il lui montre l'amour. Il fallait qu'il marque sa confiance. Barnabas, il était connu des apôtres et son témoignage, il était important afin que Saul soit accepté. Et quand il a expliqué simplement ce qu'il a vécu, cette vision du Seigneur Jésus, ces paroles qu'il a entendues, cet appel que le Seigneur a lancé à Saul, mais même les apôtres, qui étaient un peu dubitatifs sûrement, qui voulaient être prudents, ils ont été convaincus. L'amour, c'est quelque chose qui arrive à nous convaincre. L'amour, c'est quelque chose qui arrive à déplacer des montagnes, qui arrive à faire ce que tous les efforts humains ne peuvent pas faire. Et grâce à l'amour de Barnabas pour Saul, Saul est devenu une bénédiction. Si nous avons une bonne partie du Nouveau Testament entre nos mains, c'est parce que Paul a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit ses lettres. Mais il ne l'aurait jamais fait sans l'amour. Sans le fait que cet amour qui croit tout était dans le cœur de Barnabas. L'amour croit que Dieu peut tout. Je crois que c'est encore une meilleure traduction que l'amour croit tout. Là, ça pourrait nous tromper. Mais l'amour croit que Dieu peut tout. L'amour croit que Dieu peut changer n'importe quel homme. Même si aujourd'hui, il nous montre tout le contraire de ce qu'on voudrait, l'amour, il croit, il se confie dans le Seigneur. Et il est convaincu que Dieu a la puissance de transformer les situations. L'amour croit que n'importe quel homme, aussi mauvais soit-il, s'il se repent avec sincérité, peut être transformé. On n'a pas des caractères dans notre vie qui sont pour toute notre vie. Mais si le Seigneur agit en nous, alors ça peut changer par sa grâce. Il y a des hommes qui étaient très arrogants, colériques, qui ont été touchés par la grâce de Dieu et qui sont devenus des agneaux. Ils étaient tellement doux que quand on avait du mal à les imaginer avant comme ils étaient. Ça m'est arrivé des fois de rencontrer des croyants, on m'a dit, celui-là avant, il était hyper colérique, hyper méchant. Et quand on le connaissait, quand on parlait avec lui, plein de douceur. Une douceur qui n'est que le fruit du Saint-Esprit, hein. Et combien c'est important de laisser l'amour du Seigneur agir de cette manière en nous. L'amour croit tout, l'amour espère tout. L'amour, la quatorzième façon d'aimer, c'est de tout espérer. L'amour n'est pas pessimiste. On est dans une société pessimiste de manière générale. Quand on regarde la télévision, ce que l'on entend de manière générale, c'est le pessimisme. Même s'il y a de temps en temps des petites notes d'optimisme. Mais quand même, encore ce matin, je regardais vite fait les informations et je voyais la catastrophe, le climat, 30 et quelques degrés au pôle sud, au mois de mai, la glace est en train de fondre. Enfin voilà, c'est la fin du monde. Au final, c'est ce qui était dit, hein. Ça met un baume sur votre cœur quand vous commencez la journée comme ça. Heureusement, j'avais commencé la journée sous de meilleurs auspices dans la présence du Seigneur. Et là, le Seigneur nous remplit de son amour. Et même si tout ça c'est vrai, tout ça c'est compliqué, hein, ce qui se passe. Mais l'amour nous permet de voir les choses de manière positive. L'amour espère tout. Notre espérance, elle n'est pas fondée sur le climat. Parce que là, on serait bien malheureux. Notre espérance, elle est fondée sur celui qui a tout dans ses mains, même le climat. Elle est fondée sur le Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Et ça ne permet pas qu'on soit agité d'un côté et de l'autre, mais on est dans la paix, parce que notre espérance, elle est en lui. L'amour n'a pas un esprit négatif ou critique. Combien notre pays de France, il a besoin de gens qui sont remplis de cet amour-là, qui espèrent tout, parce que souvent on est en train de râler, souvent on est en train de se plaindre, souvent on est en train de reprocher celui-ci ou celui-là. Mais c'est bon que dans notre pays de France, il y ait des hommes et des femmes pleins d'amour qui sont pleins d'espérance et qui disent ces paroles autour d'eux, d'espérance. Oui, c'est vrai qu'il y a ceci qui va pas, mais je me confie dans le Seigneur, mais je crois que ça va s'arranger parce que le Seigneur est avec celui qui se confie en lui, tout simplement. Cet amour espère ce qui est bon pour l'autre, même lorsque les autres ont cessé d'espérer. Vous savez, quand Pierre a vu Jésus, une des premières fois que Pierre a vu Jésus, juste après un miracle, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'a pas dit une parole pleine d'espérance, hein. Il a dit « Retire-toi de moi, je suis qu'un homme pécheur. Tu pourras rien faire avec moi, Seigneur, je suis qu'un pécheur. » Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Ok, d'accord, je te fais comme selon ce que tu as dit. Il a dit ça? Ben non, parce qu'il savait ce que Pierre allait pouvoir faire après, quand il allait être changé par l'amour de Dieu. Et Jésus a espéré et a donné une parole d'espérance parce qu'il aimait Pierre, parce qu'il voyait son avenir. Il lui a dit, cette parole, aujourd'hui, tu seras pécheur d'hommes. Je suis un homme pécheur, Seigneur. Non, non, tu vas être un pécheur d'hommes. Tu vas être quelqu'un qui va être utilisé pour bénir les hommes. Ce que tu fais aujourd'hui dans ton travail, mais tu vas le faire de manière spirituelle pour amener la bénédiction sur d'autres. Vous préférez entendre quelle parole? Tu n'es qu'un homme pécheur ou tu seras un pécheur d'homme? Bon, pour Pierre, c'est ça qui a convaincu de tout laisser. Il a tout abandonné, la barque, les filets, et puis il a suivi le Seigneur Jésus et il ne l'a pas regretté, même si ça lui a coûté, hein. Ça lui a coûté beaucoup de choses, mais il avait une espérance qui a brûlé dans son cœur. David aussi connaissait l'espérance. Si vous lisez les psaumes, vous voyez qu'à combien de fois il part de l'espérance? Je vous fais brosser un court tableau, là, trois psaumes, psaume 25, tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Psaume 40, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Psaume 62, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Et on pourrait multiplier tous les psaumes que David a écrits. Mais c'est un thème qui lui est à cœur parce que David connaissait l'espérance qu'il y avait en Jésus, en son Seigneur, et il avait cette espérance même quand il était en train de fuir, même quand il était en danger de mort, même quand il était dans les déserts, même quand il était rejeté par le royaume d'Israël alors qu'il devait être roi. Il avait une espérance parce qu'il s'appuyait sur son Seigneur. Alors qu'il a commis l'adultère, alors qu'il a fait tuer le mari de la femme avec qui il a commis l'adultère, alors qu'il a eu un enfant avec cette femme, Bathsheba, Dieu envoie le prophète Nathan, vous connaissez l'histoire, pour lui montrer son péché. Et la conséquence il y a eu la repentance de David, mais la conséquence de son péché, c'est que l'enfant a été gravement malade. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que David réagit à ce moment-là. Vous avez vu comment il réagit? Vous connaissez l'histoire? Ou pas du tout? Pendant que l'enfant est malade, il est dit que David, il se coucha par terre toute la nuit. Et il ne mangea pas. Même les gens, les anciens venaient le secouer en disant, viens manger, viens prendre des forces. Mais il disait, non, non, je vais prier, je vais intercéder, je vais placer mon espoir en l'Éternel. Peut-être qu'il aura pitié de moi. J'assume les conséquences de mes fautes, mais pourquoi pas, peut-être que l'Éternel aura pitié. David, il avait l'espérance dans le Seigneur. Et pendant 7 jours comme ça, il ne mange pas, il reste couché par terre, dans la prière, dans l'humiliation, parce qu'il sait qu'il a fait du mal, et il sait que les conséquences de son péché retombent sur son enfant. Et puis, au bout de 7 jours, l'enfant est enlevé auprès du Seigneur. Et qu'est-ce que fait David ? Les serviteurs sont là, ils savent pas trop comment lui dire, parce qu'ils se disent, mais s'il était comme ça pendant qu'il était vivant, qu'est-ce qu'il va être quand il va savoir qu'il est mort? Alors ils osent pas trop, mais David, il voit qu'ils hésitent et il comprend que l'enfant est décédé. Et il leur demande, est-ce que l'enfant est mort? Oui. Alors il se lève, il va prendre sa douche, il va se parfumer et il se met à table. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un peu bizarre, non? Comme réaction. Mais pourquoi? Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous allez me dire, c'est quoi ce proverbe? Mais vous savez que c'est inspiré d'un proverbe biblique, ça. Hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est dans l'Ecclésiaste, on trouve. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Tant qu'il y avait de la vie dans cet enfant, il y avait l'espoir que Dieu pouvait le guérir. David savait qu'il y avait un espoir, donc il a combattu, il a intercédé, il a prié. Il s'est dit peut-être que Dieu va changer d'avis par rapport à cette situation. Mais quand l'enfant est décédé, il a dit, Dieu a choisi une autre façon de faire que ce que moi je pensais, je lui fais confiance. Et vous savez que le deuxième enfant qui est né de Bathsheba, c'était qui? Salomon, celui qui a régné, celui qui est devenu le prince héritier. Parce que David avait compris l'espérance, alors il a combattu tant qu'il y avait de la vie. Et nous devons être de cette manière-là, tant qu'il y a de la vie, même si la situation est la pire de toutes, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a l'espérance. Quand la personne est décédée, il faut arrêter de prier pour elle, par exemple, parce que c'est inutile. Mais tant qu'il y a la vie, je veux me battre, je veux intercéder, je veux prier, je veux pleurer même s'il y a besoin. Et le Seigneur m'a montré encore cette semaine que quand on prie de manière sensible, quand on prie rempli de compassion pour une personne, mais ça fonctionne cette prière-là, parce que c'est ça qu'il aime le Seigneur. Quand on prie du bout des lèvres, ben ça ne va pas marcher, hein. Et quand on prie que notre cœur, que nos tripes sont prises dans la prière, ben je peux vous dire que ça fonctionne. Parce que le Seigneur, il aime quand on a cet amour dans notre cœur, qui espère tout et qui espère au point de combattre. Quand on lit la suite de ce proverbe qu'on connaît bien là, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, ou plus bibliquement, pour tous ceux qui vivent, il y a l'espérance, il est dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pourtant, quand on compare un lion majestueux, une belle crinière, puissant, qui fait qu'une bouchée du chien, et puis le petit chien chétif se dit, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, mais si le lion il est mort, il aussi beau et aussi grande soit sa crinière, et bien peigné, ben il est mort. Il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Comprenez? Des fois, nous on est là, ah mais c'était un lion, c'était quelqu'un d'important, et cette personne, c'est un chien, cette personne, elle est toute petite, cette personne, elle est méprisable, elle fait que des mauvaises choses, elle insulte même le nom de Dieu. Oui, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Crois que Dieu est capable de changer la situation. Et moi, je veux être quelqu'un qui est rempli d'amour et d'espérance par rapport à cette personne qui semble à l'opposé même de Dieu, mais il y a de l'espérance parce qu'elle est encore en vie, et Dieu est capable d'agir à son égard. Quelqu'un peut-être se sent faible à cause des circonstances qui sont contraires, qui sont compliquées. Mais le Seigneur dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Parce que notre espérance, elle est en lui. Je dirais même plus, si on veut vraiment rendre encore plus biblique le proverbe, tant que Jésus vit, il y a de l'espérance. Ça vous voit comme traduction? Là, c'est moi qui la propose, hein. Mais tant que le Seigneur Jésus vit, qu'est-ce qu'on a à craindre? Hein? Et on sait qu'il vit au siècle des siècles. On raconte l'histoire d'un chien, tiens, on continue avec les chiens, qui est resté à l'aéroport d'une grande ville pendant 5 ans. il a attendu le retour de son maître. 5 ans, il était dans l'aéroport, il attendait. Le personnel qui l'ont vu venir tous les jours, ils ont commencé à prendre soin de lui, lui donner à manger, etc., etc. Et pendant 5 ans, il a attendu que son maître revienne parce qu'il avait l'espoir que son maître revienne. Il avait un attachement pour son maître et il a attendu la planter. On ne sait pas si le maître est revenu au bout des 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé. Mais on peut se poser la question, si l'amour d'un chien peut produire ce genre d'espoir, qu'est-ce que peut produire l'amour du Seigneur ou l'amour de notre prochain? Est-ce que nous allons être prêts à endurer, prêts à faire des efforts, prêts à combattre, prêts à tenir bon, même si tout semble le contraire? Parce que dans notre cœur, il y a l'amour. Aimer, c'est espérer tout. Aimer, c'est aussi supporter tout. En français, supporter, c'est littéralement sous-porter. C'est-à-dire qu'il y a une pression, mais nous, on est dessous, en train de porter tout ça. Sous-porter. Une autre façon de le dire, c'est subir sans faiblir. On subit les choses, on est dessous parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on faiblit pas, on continue d'avancer quand même. C'est ça, supporter. On est sous une pression, mais on arrive à traverser malgré tout. Ça, c'est supporter. Et l'amour est capable de supporter. D'ailleurs, dans le terme grec, il y a une idée militaire qui est présente. Le verbe qui est employé là, supporter, c'est un terme qui était employé par les armées grecques. Vous savez ce que ça voulait dire? C'était désigné pour le maintien d'une position stratégique, à tout prix par une armée. Il y avait un point stratégique, une armée qui était là, et il fallait surtout pas qu'elle se fasse prendre, cette position stratégique. Donc l'armée qui était là devait défendre à tout prix leur position jusqu'à ce que la vague ennemie soit passée. Sinon, ça risquait même de compromettre toute la guerre. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui était sur l'endroit de la bataille où Samson a remporté la victoire. Vous vous souvenez, Samson avait la mâchoire d'âne. Et il avait gagné la bataille et tout ce territoire était rentré dans le royaume d'Israël. Et des années après, il y a un homme qui s'était tenu là, planté au milieu du champ et qui avait défendu ce champ. C'est cette idée-là, de supporter tout jusqu'à ce que la vague ennemie passe. Et cet homme avait remporté la victoire parce qu'il était attaché, il voulait pas perdre une miette de l'héritage du royaume d'Israël. Et donc il a resté bon. Et l'amour, il a cette dimension de supporter, de prendre position, de planter les pieds bien dans le sol, dans la parole de Dieu, dans le rocher, et d'encaisser jusqu'à ce qu'on puisse traverser. On le retrouve d'ailleurs dans un autre verset qu'on connaît mieux. L'amour du plus grand homme refroidira. C'est quoi la suite? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, celui qui prendra position jusqu'à la fin et qui subira tout sans faiblir jusqu'à la fin sera sauvé. C'est intéressant. En plus, ça parle de l'amour. Il y a une vague de froid glacial, de haine et de méchanceté sur notre monde, mais le chrétien, il tient bon dans l'amour. Le chrétien, il reste fondé et enraciné dans la parole de Dieu. Et alors qu'il a cette communion avec le Seigneur, il y a l'amour de Dieu qui est répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. Dans le cadre de l'amour, on comprend aussi que c'est supporter les erreurs, les défauts de l'autre. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont des défauts? Oui? Moi j'en vois un tous les jours dans mon miroir. Tous les matins je le vois. On a tous des défauts. Mais c'est plus facile de supporter nos défauts que ceux des autres. Vous avez remarqué? On est plus doux avec nous-mêmes. On est plus patient avec nous-mêmes. Mais l'amour, c'est aussi d'aimer son prochain comme soi-même, justement. Et donc, parfois, de supporter. Il y a des personnes, je connais des dames. Alors, je ne sais pas est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ce qu'elles ont fait. Parce que pendant des années, elles ont supporté d'être battues par leur mari. Donc aujourd'hui, moi je conseillerais de se mettre en sécurité, bien sûr. Mais elles étaient dans une époque en plus où c'était quand même assez tabou. On n'en parlait pas beaucoup, c'était des mamies hein, de qui je parle. Et donc ça se faisait pas de quitter le foyer, etc. Donc elles ont supporté. Mais dans leur esprit, elles le faisaient pas juste pour le plaisir de recevoir des coups. Mais c'était en se disant, un jour le Seigneur va toucher mon mari. Un jour le Seigneur va toucher mon mari. Si je pars, le Seigneur pourra pas le toucher. Donc c'est une façon de penser. Mais ce que j'ai entendu de leur bouche, c'est que quand le monsieur finalement, la fin de sa vie était trop faible pour l'abattre, et que surtout il est tombé malade gravement, et qu'il a vu son épouse, malgré toutes les années de galère qu'il lui a fait subir, prendre soin de lui dans sa maladie. Cet homme a eu le cœur touché, et avant de rendre son dernier soupir, il s'est repenti, il a donné sa vie au Seigneur. Est-ce qu'il l'aurait fait si la dame était partie? Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'était le meilleur moyen de faire? Je ne sais pas non plus, mais je vois le fruit. Et il faut bien comprendre. On est dans une époque aujourd'hui où parce qu'on n'est pas d'accord sur la couleur de la peinture du mur, ben on peut se séparer. D'accord? On est un peu excessif, parfois. Je dis par contre de faire attention quand il y a un danger, des violences, etc. Là, c'est quelque chose de très sérieux. Mais supporter, ce n'est pas d'accepter de qu'on nous fasse du mal pour le plaisir de recevoir du mal. Supporter, c'est d'endurer certaines douleurs parce qu'on a un autre but plus fort derrière. Supporter pour sauver. Il faut que Dieu éclaire notre regard. Je vous donne un exemple. Il y a ce passage d'Hébreux 12 qui nous dit « Considérez ou regardez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. » C'est Jésus. Considérez Jésus qui meurt à la croix. Il a supporté une opposition de la part des pécheurs à la croix. On est d'accord. Il y a eu l'opposition quand même. Ben, pas mal, hein. Et regardez ce qu'il est dit. Il a supporté tout cela afin que vous ne vous lassiez point, afin que vous ne vous découragiez point. Le but de pourquoi le Seigneur il a supporté tout ça, c'est pour qu'on ne puisse pas se lasser, nous. Est-ce que ça vaut la peine? Qu'on ne puisse pas se décourager? Oui, parce qu'on est souvent confronté à du découragement ou de la lassitude. Mais parce qu'on a un Seigneur qui a supporté les douleurs, l'opposition de la croix, on peut retrouver de l'encouragement. Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Et combien on remercie le Seigneur d'avoir fait cela. On raconte cette histoire aussi pendant la Révolution américaine. Il y avait un pasteur baptiste, Peter Miller, et il vivait à Ephrata en Pennsylvanie. Et c'était un ami personnel de George Washington qui n'était pas encore président. Et il y avait dans cette ville aussi un homme méchant qui s'appelait Michael Whitman. Je ne sais pas si c'est à cause du prénom, hein, qui faisait tout ce qu'il pouvait pour s'opposer au pasteur et l'humilier quand il avait l'occasion de l'humilier ou de dire des paroles contre lui. Il le faisait, il se gênait pas. Mais cet homme a supporté tout cela, ce pasteur. Et puis un jour, ce méchant homme, il a été arrêté pour trahison et il a été condamné à mort. C'était comme ça dans le pays au moment. Et quand il a entendu la nouvelle, le pasteur, il a choisi de marcher 70 km pour aller jusqu'à la ville de Philadelphie, là où c'est qu'il y avait George Washington qui était le général. Et il a commencé à intercéder en faveur du méchant homme. Et il lui a dit, non, Peter, je ne peux pas t'accorder la vie de cet homme. Regarde tout ce qu'il a fait. Il a fait contre son pays. C'est pas possible qu'il soit gracié. Et alors, le prédicateur, il lui a dit, il lui a dit, je ne peux pas t'accorder la vie de ton ami. Et c'est là où justement le prédicateur, il a dit, il y a erreur sur la personne, là, c'est pas mon ami, c'est mon ennemi. Et là, George Washington, il a dit, ça change tout. Si c'est ton ami, si c'est ton ennemi, alors je veux bien le gracier. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il dit, tu as parcouru 70 km pour un homme qui était ton ennemi. Mais je crois que ça vaut la peine qu'on le gracie parce que tu as supporté tous ces kilomètres pour que manifester ton amour à cet homme. Alors va lui dire qu'il est gracié. Et donc, le prédicateur, le pasteur, il a refait les kilomètres en sens inverse, 70 km à pied, pour aller dans sa ville annoncer à cet homme qu'il était libéré. Et quand ils sont sortis de cet endroit, qu'est-ce qui s'est passé? De la prison. Mais il était venu voir un ennemi et il est reparti avec un ami. Cet homme a totalement changé de vie parce qu'il a vu que quelqu'un qui était pourtant, semblait-il, son ennemi a fait quelque chose pour lui. Quelqu'un a supporté et a manifesté l'amour de Dieu. Est-ce que ça vaut la peine d'agir de cette manière? Quand on supporte pour faire du bien, ça vaut la peine. Quand on endure, quand on reçoit des coups, quand on se moque de nous, mais que c'est pour une bonne raison que nous on reste, ça vaut la peine. Si on endure, mais qu'on ne sait pas ce qu'on fait là au milieu de gens qui se moquent de nous, ben il vaut mieux pas rester, hein. Mais si on a la vision du Seigneur, si on est en communion avec Dieu, le Seigneur nous donne sa vision. Voilà pourquoi Étienne aurait pu partir en courant quand il a commencé à parler aux Juifs qui étaient là autour de lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé vers le ciel. Il a compris que son témoignage, même si ça allait entraîner la persécution, ça allait aussi être une bénédiction parce que l'Église a commencé à se répandre dans tout le pays d'Israël et même plus loin dans l'Empire romain. S'il n'avait pas eu cette occasion-là, ben les chrétiens seraient restés juste à Jérusalem, dans toujours cette timidité que l'on a, ce confort que l'on a dans les choses qu'on connaît. Mais non, il y a eu un événement qui a fait que ça s'est propagé. Étienne, d'ailleurs, a dit « Je vois le Seigneur Jésus, je vois la gloire de Dieu, je vois le ciel ouvert et Jésus-Christ ». On a besoin d'avoir une vision du Seigneur quand on est dans l'épreuve, afin qu'il nous donne de supporter. Et pour conclure, c'est ce dernier point qui concerne tous les autres finalement. L'amour ne périt jamais. La 16e et dernière façon d'aimer, c'est de ne jamais mourir, de ne jamais périr. Littéralement, c'est dans le sens de échouer ou perdre le pouvoir. Celui qui n'aime pas, il est en train de perdre le pouvoir. J'aime cette façon de traduire les choses. Celui qui n'aime pas, il perd le contrôle sur les choses. Quand je choisis la haine, quand je choisis l'égoïsme, quand je choisis la vengeance, quand je choisis la critique, quand je choisis de me vanter, et tout, vous pouvez prendre tous les contraires de ce qu'on a vu jusqu'à présent, eh bien, je perds le pouvoir sur la situation. Mais quand je me soumets à Dieu et à son amour, eh bien, je suis en contrôle. Je suis dans la maîtrise des choses. Parce que je me confie dans le Seigneur, qui maîtrise tout lui. D'accord? C'est pas moi qui suis tout puissant, hein. Mais c'est l'amour du Seigneur qui est en moi qui me donne la puissance, qui me donne de tenir bon. L'amour ne périt jamais. C'est bien de patienter, mais c'est mieux de patienter toujours. C'est bien de ne pas se vanter, mais c'est mieux de ne pas se vanter toujours, de manière continuelle. Et c'est vraiment cette pensée qui est là. C'est pour ça qu'il est dit, l'amour ne meurt jamais. Au verset 13, maintenant trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Vous savez, dans le ciel, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas forcément là. D'ailleurs, il le dit, Paul, dans ce chapitre, il parle des langues qui ne seront pas forcément dans le ciel. Mais il dit, il y a une chose qui sera dans le ciel dont on est sûr. Et ça vaut la peine de déjà ici-bas la connaître, c'est l'amour de Dieu. Parce que dans le ciel, on sera baigné dans l'amour de Dieu. Si sur la terre, on n'aime pas l'amour de Dieu, ben on va s'ennuyer dans le ciel. On va être embêté dans le ciel. Mais si on est plein de l'amour de Dieu ici-bas, ben dans le ciel, ça va être le vrai paradis, parce qu'on va le connaître véritablement. Que le Seigneur nous aide à être plein de son amour. Que le Seigneur nous aide à ce que cet amour nous donne la force et le contrôle sur les choses. Souvent, on se laisse dépasser par nos émotions humaines, et le résultat, c'est qu'on perd le contrôle. Les choses nous échappent, ça part en vrille, excusez-moi l'expression, mais vous comprenez l'image. Les choses vont de travers. Mais quand on aime, quand on choisit d'aimer, alors le Seigneur, il s'occupe de nous. Que son nom soit béni. Merci Éternel. Merci parce que tu nous aides, Seigneur, au travers de tes 16 façons d'aimer. Tu nous aides à voir les progrès que nous avons besoin de faire les uns et les autres. Seigneur, si même dans ces 15 façons d'aimer, 15 premières façons d'aimer, nous sommes parfaits, et que nous manquons de persévérance, aide-nous, Seigneur, à être dans la 16e, dans cet amour qui ne meurt jamais. Mais nous savons, Seigneur, que ce n'est pas le cas. Nous savons que nous avons souvent des choses à nous reprocher, et nous avons besoin de ton secours. Merci pour cet amour qui croit. Toi, Seigneur, tu as cru en nous. Tu as cru que l'homme qui reçoit par la foi le pardon de ses péchés peut changer, Seigneur, et que nous ayons cette vision aussi sur les personnes qui nous environnent et qui sont peut-être enfoncées loin dans le péché. Aide-nous à avoir cet amour qui croit tout, qui espère tout, qui supporte aussi. Il y a des circonstances compliquées, il y a des tempêtes parfois. Il y a, Seigneur, des choses qui ne se passent pas comme prévu, mais nous voulons pas perdre le contrôle. Nous voulons laisser ton amour contrôler tout, Seigneur. Déverse ce matin encore ton amour dans nos cœurs. Répands ton amour dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit. Oh, place, Seigneur, dans ce pays de France, des hommes et des femmes qui se tiennent debout, et qui sont pleins d'espérance, qui vont à contre-courant de cette vague de pessimisme, qui vont à contre-courant de ce froid glacial, de l'égoïsme, de l'indifférence, de l'insensibilité. Donne à cette Église de briller, Seigneur, de cette lumière de ton amour dans les cœurs, Seigneur. Aide-nous à être des hommes et des femmes qui parlent l'amour, mais qui agissent en fonction de ton amour, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, mais tu sais, Seigneur, combien tu veux déverser ta force sur nous ce matin. Oui, nous sommes là, entre tes mains, et nous te supplions de venir à notre secours, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne sur la terre comme il est dans le ciel, Seigneur. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton aide dans nos moments, Seigneur. Tu connais celui, oui, qui est en train comme d'enfoncer, de se noyer et qui a besoin de ressentir un frère ou une sœur qui va l'aimer. Seigneur, donne-nous la vision d'être quelqu'un qui va aimer notre frère pour l'aider à aller plus loin, à changer, à ce que les choses puissent s'arranger pour elle, Seigneur, comme Barnabas l'a été pour Saul. Merci, Éternel. Amen.